de 0,13% à 3113 points. En direct de la Bourse de Paris, Isor Dupont-Avis pour France Inter.
La Bourse, en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse. Ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
14h03, vous écoutez France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 22 août 1962, l'attentat du Petit Clamart et l'homme qui l'a organisé, Jean-Bastien Thiry.
Un attentat a été dirigé contre le général de Gaulle aujourd'hui en fin d'après-midi. Le président de la République, accompagné de Madame de Gaulle et de son gendre, le colonel de Boissieu, regagnait Colombey à l'issue du Conseil des ministres lorsque sa voiture a essuyé plusieurs rafales d'armes à feu qui ont brisé la vitre arrière et crevé deux coups.
D'histoire. Cette fois-ci, c'était tangent. Ce sont les premiers mots du général de Gaulle juste après avoir échappé à l'attentat le plus spectaculaire jamais organisé en France contre un président de la République. Quelques minutes plus tôt, à 20h10, le 22 août 1962, au Petit Clamart, un commando de 12 hommes venait de tirer sur la voiture qui conduisait le chef de l'État de l'Élysée à l'aéroport de Villacoublay. 12 hommes bien décidés à faire payer à De Gaulle les drames qui ont marqué la fin de la guerre d'Algérie, les accords d'Évian, l'abandon des Harkis et l'exode des Pieds-Noirs qui, en cet été 62, étaient en train de revenir en France. À la tête des conjurés, un lieutenant-colonel de 35 ans, arrêté moins d'un mois après l'attentat. Paris Inter, le 17 septembre 1962.
J'avoue avoir été le chef de la conjuration du Petit Clamart. Ce n'est pas moi qui parle, bien sûr, cette déclaration. Un ingénieur du corps aérien, Jean-Marie Bastien Thiry, l'a faite aujourd'hui au policier qui, depuis 48 heures, l'interrogeait. Bastien Thiry est un ancien polytechnicien, ingénieur de l'aéronautique, et il est affecté à la direction des services techniques de l'aéronautique au ministère de l'Air. Bastien Thiry se réclame du soi-disant CNR et a déclaré également qu'il avait agi en accord avec le haut commandement de l'OAS. Et dernière précision qui vient de nous arriver, l'attentat du Petit Clamart aurait été précédé de deux préparations de deux autres attentats qui devaient avoir lieu lors du retour à Paris du général de Gaulle.
Jean Pax Meffray, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier chez Pygmalion un livre sur Bastien Thiry, l'organisateur et le chef, on vient de l'entendre, de l'attentat du Petit Clamart contre le général de Gaulle. Alors c'était en août 1962, quelques jours à peine après la fin de la guerre d'Algérie, dont on peut dire au fond que c'est un peu le dernier acte. Je crois qu'on peut pas comprendre cet attentat, le retentissement qu'il a pu avoir, en échappant sans parler du contexte dans lequel il s'est produit. C'est la guerre d'Algérie, c'est d'ailleurs la motivation essentielle de Bastien Thiry.
C'est la motivation essentielle, c'est le drame, c'est le massacre des Harkis, c'est l'exode des Pieds-Noirs, c'est les disparus d'Oran. Il faut savoir que depuis cinq mois, les Pieds-Noirs vivent, enfin l'Algérie est l'horreur. Il y a eu le massacre du 26 mars où l'armée a tiré sur la foule, sur une foule de Pieds-Noirs qui manifestaient. Il y a 80 morts, 200 blessés. Après les accords d'Évian du 19 mars, c'est pas la paix, mais c'est la guerre qui continue. Alors là, on enlève les gens dans les villages, les Harkis sont arrêtés, massacrés.
Et les attentats de l'OS aussi, il faut le rappeler.
C'est ce que j'allais dire. Et en même temps, dans Alger, il y a plus de 20, 30, 40 morts par jour. Les bombes explosent partout. Il y a la chasse aux terroristes, aux présumés, ou uniquement aux civils, et on règle ces comptes à coup de 11-43. Et puis en France aussi, il y a Charonne, il y a l'attentat contre Delphine Renard, il y a une guerre civile.
Oui, alors cet attentat quand même, Jean-Pax Meffray, il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est que son organisateur, qui est Jean-Bastien Thiry, n'a jamais, lui, été directement mêlé à la guerre d'Algérie, ni même à l'OS. Il n'est pas pied-noir, mais il est lorrain. Il ne s'est pas battu en Algérie. Et je rappelle, il n'est pas mêlé à l'OS, contrairement à ce qu'on a dit dans l'archive. En fait, même l'OS, le chef de l'OS, Salan, condamnait les attentats contre De Gaulle.
Salan a condamné le premier attentat réalisé par Bastien Thiry, à Pont sur Seine, le 8 septembre 1961, et il a condamné les autres. Mais on a un peu le sentiment dans cette affaire que les militaires de l'OAS ne voulaient pas tuer De Gaulle. et que c'est plutôt les politiques de la quatrième qui voulaient abattre de Gaulle.
Ce qu'on appelait le CNR, hein, Conseil national de la résistance, qui n'avait rien à voir avec celui de la Deuxième Guerre mondiale et de l'occupation.
Enfin, ils avaient un point commun, c'était Georges Bidault qui avait
faisait partie de ce CNR qui voulait, lui, la mort de Gaulle, en tout cas qui a annoncé ou qui ont condamné, à mort le général de Gaulle. Alors, deux mots quand même sur le personnage, parce qu'il est assez atypique. On imagine dans cet attentat un baroudeur tête brûlée. C'est un polytechnicien, on vient de l'entendre, ça a même été un spécialiste des missiles.
Oui.
Pondéré, très religieux, hein, très.
Il est très religieux, il est issu d'une. Il n'y a que des militaires dans la famille Bastien Thierry. On est au service de la nation depuis 3-4 siècles.
On est même gaulliste, son père, il était gaulliste.
Et lui aussi, lui, que tout jeune, il a applaudi De Gaulle, qui défilait à Metz. De Gaulle, dans la famille Bastien Thierry, c'est une icône. Et lorsque De Gaulle arrive au pouvoir en 58, toute la famille est ravie. Alors, il déchante en 1959, lorsque De Gaulle commence à adopter une politique algérienne et se dirige vers l'indépendance. Dans la famille Bastien Thierry, c'est les règlements de compte. Et le lieutenant-colonel, il l'est pas encore, mais qui va devenir le lieutenant-colonel, commence à se durcir et à envisager un homicide.
Et a préparé d'ailleurs d'autres homicides avant celui du Petit Clamart, d'autres attentats, c'était notamment Pont-sur-Seine, vous l'avez dit, en septembre 61. Alors il n'est pas découragé par cet échec, Bastien Thierry, il prépare un autre attentat en compagnie de celui qui sera le numéro 2 de l'attentat du Petit Clamart, Alain de la Tocquenay, qui il y a quelques années m'avait raconté comment, avec Bastien Thierry, il avait préparé l'attentat du Petit Clamart, Alain de la Tocquenay.
J'ai été partisan, moi, de l'élimination en race campagne. Je suis terrien, je suis chouan, et j'avoue, je préfère la campagne à la ville. Alors, cela dit, moi, j'ai été très ennuyé, parce que Bastien Thierry me le dit, on ne peut plus refaire l'analogue de Pont-sur-Seine. Alors, moi, j'aime pas la ville, je déteste la ville, et effectivement, c'était dans la ville qu'il fallait le faire. Alors, ça posait beaucoup de problèmes, parce que se mettre en embuscade, imaginez-vous, avec 60 ou 70 voitures à la minute, comme ça a été le cas pour le Petit Clamart, c'est pas du tout, ça m'ennuyait de tuer 10-3 000 personnes, moi ça m'est complètement égal. J'ai un sens de la piété, de la ferveur au-dessus de ces quotidiennetés. Hein? Je suis pas un terroriste de ville, moi. Mais je suis par contre un chasseur de campagne, c'est très agréable. Alors cela dit, qu'était l'important, c'était la décision de le faire à Paris. Moi, ça m'ennuyait. Mais je l'ai fait, puisque je m'étais engagé, et je m'engage.
Alors c'était Alain Bourgonnais de la Tocquenay, le numéro 2 de l'attentat du Petit Clamart. Le moins qu'on puisse dire, Jean-Pax Meffray, c'est qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Hein.
Non, il n'a pas ni les armes non plus, ils avaient plutôt dans les mains. Lorsque l'attentat a lieu, que la voiture, que la DS présidentielle, malgré les deux pneus crevés, continue sa route... De la Tocquenay est au volant d'une voiture et il prend en chasse la voiture présidentielle.
On y reviendra, Jean-Baptiste Meffray, mais ces gens, parce que Bastien Thierry, lui, c'est un personnage, non pas froid, hein, c'est un sensible, etc., mais enfin, il analyse froidement les choses, il organise minutieusement l'attentat, mais il est entouré de gens qui, eux, ont été directement mêlés à la guerre, et puis qui ont d'autres comptes à régler avec De Gaulle. Pour la Tocquenay, moi, il m'avait dit à l'époque, pour moi, c'était un crypto-communiste, il le détestait, lui, depuis la guerre.
Oui, c'est aussi la motivation des Hongrois qui font partie du commando. Les pieds noirs qui font partie du commando, c'est surtout l'Algérie française. Mais enfin, ils sont tous d'accord sur un point, il faut tuer De Gaulle. Parce que ce qu'ils veulent, c'est bien tuer De Gaulle. Les Bastien Thierry, qui devant la Cour de justice, expliquera qu'il s'agissait d'un enlèvement, masque la réalité. En fait, son désir, c'était de tuer De Gaulle.
Alors, de le faire aussi avec, ça c'est extraordinaire quand on vous lit, des complicités, y compris dans l'entourage même du général De Gaulle. Ils ont souvent invoqué, d'abord pour savoir par où De Gaulle allait passer en venant de l'Élysée pour aller à Villacoublay et de là à Colombey-les-Deux-Églises, il fallait bien qu'on sache par où il passait. Et l'Élysée, il y avait dans l'entourage de De Gaulle des gens, y compris le commissaire chargé de la sécurité du général De Gaulle, qui a démissionné un peu avant l'attentat, qui avait des contacts, qui étaient partisans eux aussi de l'Algérie française.
Voilà, il s'agit de Jacques Canteloube, qui était le directeur de la sécurité du général de Gaulle, donc c'était un c'est un personnage très important qui avait, mais qui appartenait pas aux gorilles qui entouraient de Gaulle, c'est-à-dire Joudert, Tessier, enfin ces personnages qui n'étaient pas policiers. Et le commissaire Canteloube, lui, était profondément attaché à l'Algérie française. Il avait suivi de Gaulle en Algérie. Il avait été contrarié par l'attitude de Gaulle en 1959. Et dans les carnets que je publie, dans ces carnets, il manifeste une antipathie prononcée pour celui qu'il est chargé de protéger, et une sympathie réelle pour ceux qui veulent lui nuire. Quoi.
Mais est-ce que c'est lui qui a renseigné justement les conjurés sur le trajet qu'allait prendre de Gaulle? C'était très important parce qu'il y avait deux trajets. Il y en a un qui passait par la route des gardes à Meudon et que n'a pas pris le général de Gaulle ce jour-là, et puis un autre qui passait par le Petit Clamart, par l'avenue de la Libération. Alors,
il pouvait pas les renseigner puisqu'il pouvait pas le savoir le trajet. C'est
ce qu'il était plus, il était plus à l'Élysée à ce moment-là.
D'abord, oui, mais le trajet n'était pas défini à l'avance. Il était défini lorsque l'aide de camp du général grimpait dans la voiture. Et donc, moi, je pense pas. Je pense que Canteloube avait de la sympathie pour eux. Il les a même rencontrés, mais je pense pas qu'il ait été. Qu'il a été la top du commando à l'Élysée. Je pense à quelqu'un d'autre.
Il n'y a pas beaucoup. À qui alors?
On n'est pas un militaire qui était en poste à l'Élysée.
Alors, il y a aussi autre chose qui est surprenant quand on vous lit, Jean-Pax Méfray, c'est que cet attentat, qui supposait quand même beaucoup de dépenses, a été entièrement financé par Bastien Thiry lui-même, c'est-à-dire sa détermination.
C'est-à-dire surtout son isolement, parce que à l'époque, on a dit qu'il était de l'OS, il appartenait pas à l'OS. D'ailleurs, pour preuve, c'est que l'OS avait préparé un nouvel attentat contre de Gaulle, et ils étaient venus, un commando qui était arrivé d'Alger pour réaliser un attentat, faire évader quelqu'un, et en même temps, et ce commando a été arrêté. Mais Bastien Thiry n'était pas financé par l'organisation, et il est allé à la recherche d'armes en demandant un peu partout, et c'est lui qui a payé de sa poche les réunions, les planques d'hôtel et le reste.
Et cet attentat, donc, qui se produit le 22 août 62 à Avenue de la Libération, au Petit Clamart, aujourd'hui qui s'appelle Avenue du Général de Gaulle, où se trouvent donc ce jour-là les hommes du commando de Bastien Thiry, répartis en trois groupes. Il faut peut-être le rappeler pour qu'on comprenne ce qui va suivre. D'abord, Bastien Thiry, qui est seul, qui doit agiter un journal dès qu'il verra arriver le cortège présidentiel. Puis 300 mètres plus loin, il y a une estafette jaune dont les occupants doivent ouvrir la porte quand ils verront le signal de Bastien Thiry et tirer avec des fusils mitrailleurs sur le général de Gaulle. Et enfin, 200 mètres encore au-delà de l'estafette, une voiture ID-19 qui est garée dans une rue perpendiculaire à l'avenue de la Libération et où se trouvent Latocné et Vatin, entre autres, et qui doivent donc couper la route dès les premiers tirs.
C'est ça.
Couper la route donc au général de Gaulle, à la voiture du général de Gaulle. Le tout doit se passer en quelques secondes. Écoutez ce récit incroyable de deux témoins de l'attentat, Alain de Latocné et le gendre du général de Gaulle, Alain de Boissieux, qui se trouvait ce jour-là dans la voiture sur laquelle ont tiré les membres du commando de Bastien Thiry, Alain de Boissieux.
J'ai vu gicler des étincelles sur la route et des balles ont commencé à arriver dans le devant de la voiture.
C'est aux rafales que j'ai démarré. Et comme les rafales ont crépité un quart de seconde plus tard, c'est là que je suis parti en retard.
Et là, j'ai hurlé à mon beau-père, « Mon père, baissez-vous !» Et j'ai crié tellement fort qu'il m'a obéi, il s'est penché, et j'ai vu la glace arrière partir en éclats. Et s'il ne s'était pas baissé, incontestablement, il aurait été tué.
Quand j'ai démarré, Vatin a tiré. Et j'ai vu la tête de Gaulle, comme ça. Et j'ai vu la vitre étoilée. Ah, j'ai dit, Vatin, ça y est, tu as fait le coup du roi, là. Eh ben non. Parce que la balle est passée au ras de sa nuque. Faut le faire, ça.
Alors, c'était les témoignages croisés, étonnants, de la Latocné encore, et du général de Boissieu, qui était dans la voiture du général de Gaulle. C'est vrai que de Gaulle a eu une chance incroyable.
Incroyable.
Sur ces 500 mètres.
Incroyable, mais on imagine quand même, on essaie d'imaginer, donc, cette voiture qui est prise sous le feu des fusils mitrailleurs. Ça dure pas longtemps, hein, ça a duré 30 secondes, hein. Mais c'est le chauffeur qui a un sang-froid extraordinaire qui avait déjà traversé le mur de flammes du 8 septembre 61.
Sur scène, ouais.
Lorsque la bouteille de gaz a explosé. Et de Gaulle couché à l'arrière de la DS avec Madame de Gaulle, tous les deux, pliés, pendant que la voiture traverse les rafales, quoi. C'est...
Et qui arrivait, qui continue à aller jusqu'à Villacoublay avec deux pneus crevés, une vitre cassée, 6 balles, je crois, dans la voiture. C'était alors qu'il y en a eu des dizaines.
Il y en a une qui se loge sur le pavillon droit de la DS. Et il y en a une autre qui passe par le réservoir et qui rebondit et qui se fiche dans le. Elle est figée dans le fauteuil au niveau des lombaires du général. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'avait pas été abaissé. Il aurait été abattu.
En tout cas, l'émotion est considérable quand les Français apprennent le soir même l'attentat auquel a échappé le président de la République le 22 août 1962.
C'est ici que s'est déroulé à la nuit tombante l'attentat contre le général de Gaulle. De sa voiture filait à 100 à l'heure vers l'aérodrome de Villacoublay lorsque les tueurs déclenchèrent leurs tirs. L'enquête devait révéler que 3 rafales au moins fusèrent de part et d'autre de la route suivie par le chef de l'État. Le nombre des balles relevées sur les lieux de l'attentat est tel qu'on peut dire que le plan des conjurés n'a échoué que par miracle. 6 balles ont atteint la déesse présidentielle, dont une a traversé la carrosserie du côté où se trouvait le général de Gaulle. Tandis que l'enquête commençait pour retrouver les auteurs de cette odieuse tentative d'assassinat, Colombet les deux églises, mieux gardées encore, a réservé un accueil inhabituel au général de Gaulle, qui a assisté à la messe comme chaque dimanche.
Alors, c'était une archive pâtée de 1962, l'attentat du Petit Clamart dont on ignorait encore les auteurs, mais qui dès le lendemain 23 août faisait bien sûr la une de tous les journaux, la revue de presse Stéphanie Duncan.
On a eu chaud cette fois-ci, de Gaulle a bien failli y passer, voilà le sentiment de la presse au lendemain de l'attentat du Petit Clamart le 22 août 62. C'est un sentiment d'épouvante que l'on éprouve, s'exclame Paris Jour. De Gaulle assassiné et c'était à coup sûr la guerre civile. L'Aurore, qui depuis des années se fait le porte-parole de l'Algérie française et à ce titre critique sans ménagement le général de Gaulle, eh bien, ce jour-là, l'Aurore ravale ses sympathies et déclare « Est-il besoin de redire ici que devant une pareille tentative criminelle, il n'y a pas de gaulliste ou de non-gaulliste, mais une réprobation unanime ?» Jean Ferniaud, dans François, constate, effaré, le péril que représentent pour les Français les bandes de l'OAS n'est donc pas conjuré. Et il ajoute, si quelques Français ont pu croire que l'OAS n'avait que des objectifs patriotiques, il ne fait plus de doute, aujourd'hui que l'Algérie est indépendante, que l'OAS n'a qu'un seul but, créer l'anarchie et prendre le pouvoir. Par conséquent, déclare l'éditorialiste de François, il faut frapper vite et fort. Et s'ils avaient réussi, se demande Alain de Sédouy dans Paris Presse. Alain de Sédouy qui imagine le scénario d'un putsch OAS. L'organisation subversive profiterait, dit-il, de la vacance du pouvoir et en faisant jouer les vieux réflexes, se présenterait comme le seul rempart contre le communisme. Dans Le Monde, Sirius, alias Hubert Beuve-Méry, le directeur, constate, une fois encore, hasard, baraka ou providence, le général de Gaulle sort indemne d'une embuscade minutieusement préparée. Un tel acte, ajoute-t-il, doit faire apparaître au plus aveugle ce que deviendrait la France entre les mains de criminels et de fous qui prétendent la sauver. L'éditorialiste du Monde va jusqu'à désigner des responsables possibles. On attend, dit-il, du très chrétien, entre guillemets, et très démocrate Georges Bidault, du compagnon Soustelle et de tant d'officiers révoltés qu'ils désavouent publiquement ces mœurs de bas empire. Le Monde, mais aussi l'humanité, exige plus de fermeté à l'égard des membres de l'OAS. Le pouvoir, constate l'UMA, dispose de tous les moyens pour les mettre hors d'état de nuire, mais il ne semble pas qu'ils veuillent agir efficacement. Beaucoup de journaux critiquent aussi le peu de cas que semble faire le général de Gaulle de sa sécurité. Le général qui aurait dit « s'ils avaient réussi, j'aurais eu une belle fin ». Des propos qui ont l'art d'exaspérer le journal communiste Libération. On entend ici l'apologie qu'aurait prononcé André Malraux. Tout cela aurait été très historique et très beau, mais surtout absurde.
Alors c'était les journaux français au lendemain de l'attentat, dont le Petit Clamart, dont on ignorait à l'époque, Jean-Pax Méfray, qui en étaient les auteurs. On les découvrira un mois plus tard. Mais alors, il y a personne, ils font l'unanimité contre eux. Il y a personne pour justifier cet attentat.
Oui, enfin, d'ailleurs, c'était le...
Toute la presse est unanime, en tout cas.
Oui, enfin, les partisans de l'Algérie française, ils ont toujours fait l'unanimité contre eux.
Non, mais un journal comme l'Aurore, qui était plutôt de ce côté-là, du côté de l'Algérie française, lui-même condamne l'attentat. Oui. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, l'OAS, Salan, était également, l'avait condamné.
C'est ça, Salan avait condamné l'attentat du 8 septembre, Jou avait déclaré, lui,
Alors l'autre chef
de l'OAS. Il était condamné à mort. Dans sa cellule de condamné à mort, il avait déclaré la fin des combats, mais c'était une autre motivation. C'était le problème qui se posait après De Gaulle, c'était qui succédait à De Gaulle si De Gaulle avait été tué à l'attentat du Petit Clamart. Ben, c'était d'abord une transition avec la présidence du Sénat, quoi.
Parce que ça fait un petit peu baroud d'honneur. L'attentat, je le rappelle, a lieu le 22 août 62, c'est-à-dire plus d'un mois, un mois et demi après la proclamation.
L'Algérie française est morte, oui.
L'Algérie française est finie, donc ça ne rime à rien, c'est comme une espèce de baroud d'honneur ou un acte de vengeance, en fait.
Pour lui, c'est une autre motivation. C'est d'abord D'abord, il accuse De Gaulle de parjure, de mensonge. Sa déclaration est terrible. Au tribunal, il fait une déclaration terrible. Il se compare un peu, Bastien Thiry se compare un peu à Rommel et Stauffenberg qui avaient fait l'attentat contre Hitler en disant qu'il faisait une œuvre de...
Oui, justement, parce qu'il est arrêté, Jean-Pax Méfray, vous le rappelez, donc en septembre 62. Le jugement a lieu en janvier 63 devant la Cour militaire de justice, qui était un tribunal d'exception. Et là, au lieu de se donner des circonstances atténuantes, ce qui aurait peut-être pu atténuer sa peine, là, il fait le procès du général de Gaulle. Je cite Bastien Thiry, dont vous relatez la déclaration dans votre livre. Il parle de dictature. Alors, il l'accuse de trahison. Il parle et il dit « La dictature gaulliste est donc, comme les dictatures hitlériennes et communistes, basée à la fois sur le contrôle de l'opinion, c'est-à-dire le mensonge et sur la violence. » Comparer franchement De Gaulle à Hitler ou à Staline, c'est quand même il pousse le bouchon un peu loin quand même.
C'était l'époque. C'était ses motivations. Et d'ailleurs, pour vous montrer à quel point, lorsqu'il a été arrêté, d'abord il aurait pu fuir. Il n'a pas voulu fuir. Il n'a pas voulu fuir parce qu'il voulait. Il voulait faire cette déclaration. Lorsqu'il a été arrêté, il a été emprisonné à la Santé. Un commando avait monté une opération pour le délivrer en hélicoptère. Ça aurait été la première évasion en hélico. Il a refusé et il précise dans son document : je veux d'abord faire ma déclaration au procès. Et en même temps, il préparait un nouvel attentat dont il avait transmis les plans à l'extérieur.
En tout cas, évidemment, compte tenu de ses propos, on se doute du résultat et du verdict. Hein. Il est condamné à mort, de même d'ailleurs que Latocneï et un autre complice qui était Prévost. Mais Latocneï et Prévost seront graciés. Lui ne le sera pas. Hein. De Gaulle refuse la grâce. Et alors, en même temps, De Gaulle, selon vous, selon une déclaration qu'aurait faite De Gaulle, en tout cas c'est tiré d'un livre de Tournou, De Gaulle aurait dit « Les Français ont besoin de martyrs. J'aurais pu leur donner un de ces cons de généraux qui jouent au ballon dans la cour de la prison de Tulle, c'est-à-dire les gens de l'OS. Je leur ai donné Bastien Thiry, celui-là ils pourront en faire un martyr, s'ils le veulent, ils le méritent. » C'est étonnant cet hommage de Gaulle à celui qui vient de tirer contre lui.
Oui, c'est étonnant, mais peut-être parce qu'ils étaient un peu pays tous les deux, et puis peut-être parce que son père, De Gaulle connaissait bien quand même, c'était informé de l'histoire de Bastien Thiry, et puis il n'était pas avare de bons mots.
Et le père de Bastien Thiry, vous le rappelez aussi, a condamné l'attentat de son fils.
Oui, ça a été un drame familial très très important, et il n'a pas assisté au procès, et il a demandé la grâce de son fils à De Gaulle, mais la lettre est arrivée le lundi matin, et Bastien Thiry avait été exécuté quelques heures plus tôt.
Et c'était le 11 mars 1963 au fort d'Ivry.
6h45 ce matin au fort d'Ivry, un homme a été exécuté. Cet homme, Bastien Thiry, le chef des conjurés du Petit Clamart. Il était 6h30 lorsque le sinistre convoi arriva au fort. La nuit s'achevait, il pleuvait, et au moment où le jour commençait à poindre, une salve éclata. Il était alors 6h45. Quelques minutes plus tard, un fourgon quittait le fort et se dirigeait vers le cimetière de Thiers. À 7h10, Bastien Thiry était inhumé dans le carré des suppliciés. Ainsi, une semaine jour pour jour après le verdict, Bastien Thiry a payé, comme on dit communément, sa dette à la société. Il avait 35 ans.
C'était la mort de Jean-Bastien Thiry, donc le dernier, d'ailleurs, condamné à mort pour raison politique.
Le dernier fusillé
aussi. Ça s'est passé comment au fort d'Ivry?
Juste après son réveil, il y a eu une messe. Il a servi la messe dans une cellule à côté, une messe dite par l'aumônier de la prison. Il a coupé en deux une hostie en demandant qu'on la donne à sa femme. Un peu plus tard, et après avoir communié, il est parti au poteau. Il avait mis sa sa capote d'officier de l'air, qui était débarrassée de ses galons. Et il a été exécuté, fusillé par un peloton de sous-officiers, parce que l'exécution précédente, qui avait été une boucherie, l'exécution du lieutenant de Gueldre, les soldats avaient été intimidés, ils avaient tiré à côté, donc il a fallu 6 minutes pour que le fusillé meure, alors que Bastien Thierry, c'était des sous-officiers qui l'ont abattu sur jugement de la Cour de justice.
Alors on a un peu oublié cet attentat, aujourd'hui, 40 ans après, Jean Pax Méfray, et on a même oublié qu'il est à l'origine de quelque chose que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est une semaine après l'attentat, avant même qu'on connaisse ses auteurs, De Gaulle prend une décision qui est directement liée à cet attentat.
Oui, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel. Et alors que tous les milieux politiques et tous les politiques étaient contre, De Gaulle a profité des circonstances pour obtenir une majorité à cette décision-là.
Une modification de la Constitution qui est donc involontairement provoquée par Bastien Thierry.
Qu'il avait opposé gravement à Monnerville. On accusait un peu le Sénat d'être le nid de l'OS à une époque, en tout cas certains sénateurs et certains chefs de cabinet attachés parlementaires de sénateurs. Et c'est vrai que de nombreuses réunions de l'OS sont tenues au Sénat.
Merci en tout cas Jean Pax Méfray de nous avoir rappelé cet épisode qui est aussi vraiment le dernier de la tragédie algérienne, de la guerre d'Algérie, et que l'on retrouve dans votre livre Bastien Thierry jusqu'au bout de l'Algérie française, un livre qui a été publié chez Pygmalion. À lire également Les soldats perdus, des anciens de l'OS racontent, un livre de Vincent Kivy, édité au Seuil, qui s'intéresse à ce que sont devenus les anciens donc de l'OAS. Il faut tuer De Gaulle, de Laios Marton, qui était un des conjurés du Ticlamar, édité au Rocher, le témoignage donc de ce Hongrois membre de l'OAS qui participait à cet attentat. Et enfin, l'histoire secrète de l'OAS, de Georges Fleury, publié chez Grasset. Je signale aussi que dimanche 29 juin sur France 5 à 16h10, vous pourrez voir une histoire interdite, un documentaire de François Marjolin et Georges-Marc Benamou. Vous avez pu entendre des extraits de l'émission L'Histoire en direct, l'attentat du Petit Clamart, réalisé par Christine Meyer-Sugy sur France Culture. Il y a un certain temps, et puis une archive pâtée de 1962, extraite du journal de votre année, distribuée en cassette vidéo par Montparnasse Édition. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Anne Le Guénec et...